Chapitre 68. En apnée, les pieds enfoncés dans des chaussons en éponge à l'effigie de l'hôtel, Paul fit pénétrer Gabriel dans le hall. Il était presque 4 heures du matin. Des cris de mouettes angoissants balayaient la rue déserte et le vent d'ouest avait forci. Bon Dieu ! Son ancien coéquipier tenait à peine sur ses jambes et grelottait, les mains serrées sur le col relevé de son blouson en cuir. Pendant les 3 heures de route, il avait failli s'endormir à plusieurs reprises. Sa tempe et son oreille gauche étaient couvertes de sang séché. Il serrait la toile de Pascal Croisil sous son coude. Sans bruit, Paul l'emmena dans la salle de bain de sa chambre, l'aida à ôter son pull, ses chaussures, prépara un peignoir, tourna le robinet d'eau chaude. Gabriel plongea sous une douche brûlante et grogna de soulagement. Il leva son visage vers le pommeau. Les gouttes lui faisaient mal, mais il écarta ses mâchoires enflammées pour que l'eau chasse le goût de sang et d'acide au fond de sa gorge. Il était là, bien vivant, un rescapé de l'enfer. En se savonnant aussi doucement que possible, il observa les poils grisonnants sur son torse d'homme de 55 ans, ses coudes noueux, ses longues mains meurtries. Il avait tellement serré la sangle autour du cou du Russe que sa paume était entaillée. « Pour Julie, » pensa-t-il, « c'est pour elle que je l'ai fait. » Il se glissa dans le peignoir. Paul l'attendait, le tableau entre les mains. Il ausculta l'hématome à la tempe, l'état de la paupière. « Tu ressembles à un boxeur qui s'est pris une dérouillée. Il faudrait t'emmener à l'hôpital. Ça va. » Je crois qu'il n'y a rien de cassé. J'ai déjà vu des fractures, ça aurait tourné différemment. Pas d'hôpital. Vaut mieux ne pas attirer l'attention. Explique-moi ce qui s'est passé. Tout, de A à Z. Demanda-t-il en s'asseyant sur le bord du lit. Gabriel s'installa à ses côtés en grimaçant, courbaturé de partout. Il reprit le début de l'histoire, des mois plus tôt, ses recherches dans les alentours d'Ixelles, suite à la découverte de la Forte Grise. La piste de la peinture qui l'avait conduit à son créateur, Henri Chmielnik, alias Arvel Gaessa, un riche industriel spécialisé dans la chimie et décédé d'une crise cardiaque. La veuve qui l'avait enfin orienté vers Vanda. J'avais retrouvé Vanda, mais elle avait décroché du milieu mafieux. Je suppose qu'en m'immisçant dans sa vie, j'ai fouillé chez elle, dans ses papiers. Je me suis rapproché de ses relations, mais ça ne m'a mené nulle part. C'est peut-être pour cette raison que j'ai décidé de la ramener à Saga, pour lui rafraîchir la mémoire et la contraindre à me raconter les événements qui s'étaient déroulés après l'enlèvement. Ça a sûrement été trop difficile à entendre et c'est à ce moment-là que je me suis effondré, la mémoire en vrac.
Il effleura son œil gonflé du bout de l'index, plissant le visage.
Depuis le début, le Russe nous avait en ligne de mire. Un deuxième traceur était planqué sous ma voiture. Quand il a constaté mon retour dans le Nord, il s'est lancé sur mes traces, décidé à en finir avec moi une bonne fois pour toutes.
Paul hocha doucement la tête, bluffé par le coup de la double surveillance. Ces hommes n'avaient rien vu.
Cette nuit, enfin dans la soirée, je suis retourné chez la veuve de Gaessa, après être allé dans le magasin de brocante où j'avais acheté le tableau en août dernier. J'ai appris 2 nouveaux éléments par rapport à ma première visite. D'abord, il semblerait que Gaessa donnait ses monstrueuses toiles à des gens tout aussi riches que lui. J'ai rendu visite à l'un d'eux, Pascal Croisil, dans les 75 ans. Ce portrait était exposé dans son bureau. Il a évidemment affirmé n'être au courant de rien au sujet des modèles. Peut-être qu'il dit vrai, peut-être qu'il ment, impossible de savoir. Mais dans tous les cas, le jeune homme peint est un gamin qui un jour a disparu, comme Julie, comme Mathilde et probablement d'autres. Encore une fois, Gaessa avait utilisé du sang. Ils observèrent de nouveau le portrait. Paul éprouva un profond malaise. Qui était-il, ce gosse? Quand s'était-il volatilisé? À quel endroit? Il détourna la tête et revint vers Gabriel. Parle-moi du Russe. J'y viens. Dans l'atelier de Gaessa, il y avait une vieille plaque en fer qui mentionnait Sodebin. J'ai fait le lien avec le carnet de Julie. Tu te souviens qu'Aleb Traskman citait ce nom dans la liste des meilleurs moyens de faire disparaître un corps?
Je me rappelle, oui.
Sodebin est une vieille usine de stockage de produits chimiques ultra dangereux. J'y suis allé. Alors que je faisais un tour là-bas, le Russe m'est tombé dessus. Attends.
Il montra d'abord la photo de son agresseur. langue tranchée, yeux exorbités. Paul fronça le nez, puis Gabriel passa à la photo du corps dans l'acide et finalement à celle des deux cadavres dans les housses. Il reposait dans un coin de l'entrepôt quand je suis arrivé. Intégralement rasé, y compris le crâne. On aurait dit, je ne sais pas, qu'ils avaient été plongés dans du formol avant d'être enfermés dans ces sacs. Ce type se servait de l'usine à l'abandon pour se débarrasser de ces corps-là avec des barils d'acide qui sont planqués parmi des milliers d'autres vides. Et apparemment, Gaïssa lui avait de son vivant déjà fourni l'accès au bâtiment et à l'acide. Ça fait des années que ça dure. Des années qu'ils diluent des corps dans leur cuve. Paul essayait de remettre les bonnes pièces dans les bonnes cases en vain. Que venaient faire ces deux cadavres à l'odeur de formol dans l'histoire? Des individus kidnappés, là aussi? Ce tordu a eu le temps de retourner chez moi pour récupérer le tableau de Julie et Mathilde. Il l'a balancé dans l'acide sous mes yeux. Il était à deux doigts de me tuer. Je n'ai pas eu le choix. Je l'ai plongé dans la cuve. Le gendarme parcourut la pièce de long en large, les mains sur la tête. Il se retint d'abord de hurler, puis retrouva un calme tout relatif. Un risque qu'on remonte jusqu'à toi? Tout ce que les flics découvriront, et c'est pas demain la veille, c'est un utilitaire avec une fausse plaque et une mare de liquide dégueulasse dans laquelle ils ne dénicheront pas une seule cellule humaine. Ces corps digérés. Je n'avais jamais vu un truc pareil. C'était comme des cachets d'aspirine que tu lâches dans l'eau. Il se perdit alors dans ses pensées. Que se serait-il passé s'il n'avait pas eu le dessus dans l'entrepôt? À l'heure qu'il était, il serait probablement suspendu au-dessus de la cuve, à moitié scalpé par le produit chimique. Peut-être que la police finira par aller poser des questions à la veuve au sujet de ce débat. Dans le plus pessimiste des scénarios, elle se souviendra de mon passage et ils viendront m'interroger à mon tour. Mais je dirais que je ne suis jamais allé sur ce site. Notre conversation de ce soir n'existe pas. Tu n'étais au courant de rien. Tu ne dois pas t'inquiéter pour ton avenir. Ne pas m'inquiéter? Non, bien sûr. T'es en train d'expliquer à un gradé de la gendarmerie que t'as dissous un type à l'acide, mais je n'ai aucune raison de m'inquiéter. Il vivait un cauchemar dont il ne pourrait s'extirper. À partir du moment où il avait commencé à mentir, à sortir des rails de l'enquête rigoureuse, il avait mis le pied dans un engrenage dangereux. Et Gabriel le savait. Désormais, le seul moyen de s'en tirer était de ne surtout pas céder à la panique. « Bon, réfléchissons, » marmonna-t-il. « On ne peut plus impliquer la police belge maintenant. Ce serait beaucoup trop risqué. Ça veut dire qu'officiellement, je ne communique ni sur ton escapade, ni sur tes découvertes de l'autre côté de la frontière. Donc, pas de Gaïssa, pas de Sodebin, pas de Russe, rien. On oublie. » Gabriel acquiesça mécaniquement. C'était la seule solution. « On dira que le numéro de Vanda était écrit sur un morceau de papier dans ton appartement. » Je veux quand même faire une requête chez les opérateurs et savoir qui elle est. Quant à ce tableau, y a-t-il une chance que le propriétaire signale le vol? S'il est impliqué d'une quelconque manière, c'est dans son intérêt de se taire. Dans le cas contraire, il ne sait rien sur moi. Donc cette peinture n'existe pas. Ça veut dire pas de procédure de recherche ADN et donc pas le moindre espoir d'identifier l'individu du portrait. On a du pot que je n'ai pas encore parlé de la toile représentant Julie à mon équipe. Comment j'aurais justifié sa disparition sinon? Putain, Gabriel, tu m'emmerdes, tu comprends? Gabriel ignora l'emportement de son ex-collègue et piocha dans le paquet de cacahuètes. Dès qu'il se mit à mâcher, il regretta son geste. L'un des coups portés par le Russe avait dû toucher ses gencives. Traskman, qu'est-ce que ça donne? Paul essaya de retrouver son calme. À son tour, il fit le point sur ses avancées. Les lettres de menace que l'écrivain recevait, l'architecture labyrinthique de sa maison, le vol par David Esquimet des dernières pages du manuscrit, ainsi que des photos présentes dans l'album morbide, et enfin la provenance des clichés. Andrea Abergel expose en ce moment même à Paris. Si la piste est bonne, je devrais remonter le parcours du corps de Mathilde Lourmel et mettre des identités sur les personnes impliquées. Mais je fais tout ça dans le cadre strict de mon enquête, donc je ne te veux surtout pas dans mes pattes, pigé? Comment tu vas t'en sortir avec le juge pour la tâche de naissance? C'est moi qui suis allé chez Lourmel, et c'est moi qui ai fait le rapprochement. Je dirais que tu es allé là-bas, parce que malgré ton trou de mémoire, tu avais le nom de Mathilde Lourmel en tête. Ensuite, je t'ai montré l'album d'Esquimet, quand je suis venu te voir dans ton appartement pour récupérer tes papiers, et tu as vu la marque. Ça se tient. Demain matin, ou plutôt dans quelques heures, tu vas rentrer chez toi, t'iras te faire soigner. Tu effaceras aussi toutes ces photos dans ton téléphone, et proprement. Il est temps que tu te poses, Gabriel. Ou tu vas finir par crever sur la route, au mieux d'épuisement, au pire d'une balle dans la tête. Gabriel dut admettre qu'il avait raison. Il acquiesça. Chez Traskman, aucune trace de Julie. Paul, l'air grave, mâcha ses mots quand il dut annoncer l'existence de la pièce secrète, là où probablement le romancier avait séquestré Julie. Gabriel sembla ne pas réagir. Il se tenait le dos voûté, les mains jointes entre ses jambes écartées. Seule une contraction au coin des lèvres exprimait l'extrême tension qui le maintenait encore éveillé. « Avant de rentrer chez moi, je veux voir où elle était enfermée. » Il baissa la tête, la releva, l'œil valide rougit, posa de nombreuses questions, mais étonnamment ne montra aucun signe d'agressivité ni de colère envers ce fils Traskman qui avait gardé le silence. Cette nuit, il n'en avait plus la force. Ne pas impliquer la police belge ne nous empêche pas d'essayer de comprendre ce qui se passe, marmonna-t-il. Le Russe bossait pour quelqu'un, il l'a dit lui-même. Il y a encore des responsables derrière tout ça, Paul. Il faut qu'il paie. Le gendarme alla prendre une chaise et s'assit en face de Gabriel. Le Ruskov t'a dit des trucs qui pourraient m'aider ? Gabriel palpa sa paupière boursouflée. Il avait l'impression qu'un ressort cherchait à se détendre sous son globe oculaire. Pas grand-chose. Il s'occupait visiblement des kidnappings épaulés par Vanda au début, puis sans doute seul. C'était aussi son job de plonger des cadavres dans l'acide de l'entrepôt de Sodebin. Gaëssa savait. À l'évidence, Traskman aussi était au courant, et déjà en 2007. Ça signifie que les deux hommes se connaissaient intimement. L'un et l'autre savaient que des corps transitaient par l'usine pour un aller sans retour. Mais comment Gaëssa a-t-il pu peindre le visage de Julie si Traskman la retenait chez lui ? Ils se partageaient leurs horreurs. Chacun était au courant de ce que faisait l'autre. Ces types n'étaient pas faits du même bois que nous. Ils étaient différents. Ils pensaient d'une autre façon, avec des motivations qui nous échappent complètement. Il y eut un silence. Des complices criminels. Paul agitait les doigts en l'air, comme s'il cherchait à attraper une idée bloquée au seuil de sa conscience. Il finit par se masser les tempes. On n'y voit plus très clair. Il faut dormir maintenant. Le mieux, c'est que tu restes ici pour ces quelques heures. Le matelas est large, on devrait survivre. Il alla accrocher la pancarte « Ne pas déranger » sur la poignée côté couloir, puis enfila lui aussi un peignoir dans la salle de bain. Il revint vers Gabriel et se rassit à ses côtés, les épaules tombantes. « S'il y a une semaine, on m'avait dit que je partagerais un lit avec toi dans le trou du cul du monde. Avec nos peignoirs, on dirait deux vieux en cure de thalasso.